Émission spéciale, le chaos libanais.
Il est 18h sur France Culture et c'est une programmation spéciale qui vous attend après le journal. En lieu et place du temps du débat, nous consacrerons une heure d'émission au chaos libanais suite à l'explosion qui a dévasté Beyrouth et son port hier. Nous serons en ligne avec des humanitaires, des universitaires, des journalistes, des acteurs de la société civile libanaise qui nous raconteront la situation sur place. On tentera aussi de mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit cette catastrophe. Bernard Kouchner nous rejoindra dans la dernière partie de l'émission. Mais avant tout ça, eh bien, c'est l'heure du journal. Bonsoir Oana Favenec.
Bonsoir à tous. Beyrouth dévasté, le Liban décrète 2 semaines d'état d'urgence dans la ville après la double explosion dans un hangar du port hier en fin d'après-midi. Le bilan dépasse les 113 morts. Les blessés se comptent par milliers. Près de 300 000 personnes ne savent plus où dormir. Nombre d'immeubles, probablement la moitié de la ville, ont été soufflés par la double explosion. Hier, des dizaines de milliers d'habitants fuient Beyrouth. C'est le cas de Tia, une étudiante libanaise de 21 ans qui habite le quartier de Gemaizeh, non loin du port. Elle a fui avec son père pour se réfugier chez sa famille à une quarantaine de kilomètres de la capitale libanaise. Elle reste traumatisée par ce qu'elle a vécu.
J'ai été beaucoup jetée dans le lit. Je suis arrivée sur l'armoire. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que c'est fini, que c'est bon, c'est comme ça que je meurs. J'ai vu ma chambre complètement en ruine. Et j'avais juste envie de partir, je voulais juste qu'on s'enfuit. On a pris des heures sur la route parce que les routes étaient bloquées un peu partout, il y avait trop de trafic. Il y avait tout le monde qui avait du sang, soit sur le dos, soit sur le ventre, soit sur la tête, soit sur les bras. Il y avait un père qui portait sa petite fille dans ses mains. Il y avait tellement de blessés partout. La nuit a été horrible, ça c'est clair. Je me suis réveillée en panique. J'avais tout le temps les mêmes images. L'image de moi qui tombe sur le sol, l'image des gens en sang. Mon œil a commencé à me faire tellement mal que je l'ai rincé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un bout de verre sorte de l'œil également. C'était un cauchemar et c'est encore un cauchemar pour tout le monde.
Un témoignage recueilli par Benjamin Recouvreur. Au moins 21 Français ont été blessés. Le parquet de Paris ouvre une enquête. Après les manifestations de soutien de la communauté internationale, l'aide humanitaire s'organise. L'Union européenne envoie une centaine de pompiers. La France fait décoller son 3e avion. À leur bord, un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Demain, l'avion présidentiel y mènera Emmanuel Macron, qui doit y rencontrer son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab. À Matignon, une réunion interministérielle a été convoquée par Jean Castex à 16h pour coordonner l'aide française au Liban. Jean Castex, qui était un peu plus tôt dans la journée à Sancerre, au cœur du vignoble, pour annoncer une nouvelle enveloppe. Après les aides à domicile hier, l'État s'engage pour aider cette fois les vignerons touchés aussi durement par la crise du coronavirus. Une rallonge de 80 millions qui s'ajoute aux 170 déjà promis en mai par l'exécutif. Pour Bernard Farge, le président du CIVB, le comité interprofessionnel du vin de Bordeaux, le compte n'y est pas.
Les fonds supplémentaires sur la distillation, c'est plutôt satisfaisant de ce côté-là. Concernant le fonds de soutien pour l'aide au stockage, c'est aussi satisfaisant. Mais en termes d'exonération de charges, c'est vraiment très très faible. Et globalement, le fonds de soutien à la viticulture est encore aujourd'hui trop faible. Et aujourd'hui, donc, nous attendons probablement lors du projet de loi de finances rectificative de l'automne, des moyens d'avoir des exonérations de charges parce que la crise n'est pas finie. Beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'événements ne se tiennent pas. Les restaurants et les hôtels sont fermés encore pour certains. Donc l'activité reste au ralenti. En France, comme dans nos principaux marchés, les États-Unis, c'est évidemment très difficile. Sur la Chine, l'activité redémarre pas aussi vite que nous le souhaiterions. Donc c'est l'ensemble de la viticulture française qui est en souffrance et qui voit des stocks s'accumuler et des trésoreries qui deviennent exsangues. Donc les exonérations de charges, c'est aujourd'hui ce qu'il faut renforcer. Et les annonces du Premier ministre sont certes utiles, mais elles sont insuffisantes au regard de ce que représente la viticulture. Et quand on compare ce qu'est la viticulture en France en termes d'emploi, plus de 500 000 emplois, en termes de chiffre d'affaires, plus de 12 milliards dans la balance commerciale, comparé aux milliards de soutien sur Airbus ou sur l'automobile, je dirais 200 millions d'euros pour la viticulture, ça semble bien faible.
Bernard Farge, le président du CIVB, le comité interprofessionnel du vin de Bordeaux, joint par Anne Lorchouin. En Italie, les autorités menacent Ryanair de lui couper les ailes, de suspendre son autorisation de vol dans le pays. En cause, les distances de sécurité entre les passagers qui ne sont pas respectées, ni même les conditions exceptionnelles permettant d'y déroger. Et l'Italie a été le premier pays touché en Europe par l'épidémie de Covid-19. En France, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont à nouveau autorisés à partir du 15 août, sous conditions, aval du préfet préalable et gestes barrières scrupuleusement observés. Une bonne nouvelle pour les professionnels du spectacle qui trépignaient, et des consignes plus précises du ministère de la Culture quant à l'organisation de la rentrée doivent être données le 24 août. En attendant, l'inquiétude domine toujours chez les professionnels du secteur. Malika Seguino est la directrice générale de Prodis, le syndicat national du spectacle musical et variété.
Nous n'avons pas beaucoup plus de visibilité pour la suite, parce qu'effectivement, à première lecture, on se dit, bah écoutez, c'est formidable, le spectacle vivant va reprendre, les lieux vont réouvrir, le spectacle vivant est déconfiné. Mais en même temps, les conditions sanitaires qui nous sont imposées, et c'est normal au regard du contexte sanitaire que nous connaissons, sont tellement strictes que le modèle économique du secteur privé ne tiendra pas dans ce contexte-là. Et on ne résout pas la question des jauges debout. Moi, j'ai eu depuis hier énormément de chefs d'entreprise du secteur. Il demeure plein de questions. Pour construire l'automne, c'est effectivement dès maintenant savoir quelles seront les conditions de cette rentrée. Parce qu'il nous faut au moins 2-3 mois pour programmer des artistes, pour remettre toutes les équipes en mode travail. Et il ne faut pas oublier que ce qu'on va programmer dans nos salles à l'automne, ça va aussi déterminer ce qui se fera dans les festivals à l'été 2021.
Malika Seguino de Prodis, le syndicat national du spectacle musical et variété, joint par Pauline Joss. Près de Marseille, le spectaculaire incendie est à présent maîtrisé. Dans la nuit, il a touché à Martigues et ses environs deux villages vacances, des maisons, un camping a dû être évacué ainsi qu'un EHPAD. Des évacuations qui ont dû parfois se dérouler par la mer. Près de 2700 personnes au total ont été déplacées et choquées, mais il n'y a pas eu de blessés. Demain, il fera beau et chaud. Le soleil est attendu partout, sauf dans la matinée en Bretagne. Des températures qui augmentent au fil de la journée pour atteindre 35 à Paris, 32 à Lille et à Marseille, 31 à Strasbourg, 33 à Vichy, jusqu'à 37 à Bordeaux, 23 à Brest. C'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue.